Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Boilly, auteur, docteur en sciences politiques et professeur au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric.
Bonjour Émilie.
Aujourd'hui, on va parler ensemble de la campagne électorale qui se déroule en Alberta dans le contexte des feux de forêt, carrément, qui brûlent en arrière-plan ou carrément dans... c'est même plus en arrière-plan rendu là, la fumée est un peu partout. Et puis, on va parler du livre de Frédéric qui est paru cet automne, « Génération MBC, Mathieu Bock-Côté et les nouveaux intellectuels conservateurs ». Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français.
En tout juste 4 heures, 80 % de sa communauté est partie en fumée. Une quinzaine de maisons et des kilomètres de forêt. La communauté métisse d'East Prairie est défigurée, méconnaissable.
So when we come home to our community, it's not going to really be home again.
We can't wait. The fire's not waiting for permission to put it out.
The battle for Alberta officially starts with a 28-day election campaign featuring two women who both want to return to the top job.
Just 1 week into Alberta's election campaign, and there have been numerous complaints of election signs being vandalized or damaged, and even farther than that, alleged cases of voter intimidation.
Frédéric, pour commencer, tu nous rejoins d'Edmonton, c'est bien ça?
Oui.
Comment ça se passe à Edmonton en ce moment?
Étrangement, Edmonton a été moins affecté par la fumée que les autres villes en Alberta ou que Calgary. En comparaison, en fait, on a même eu plus de fumée, je dirais, dans les étés précédents ou lorsqu'il y avait des grands feux du côté de la Colombie-Britannique. Tout est une question dedans. Cela dit, ben, sur l'ensemble de la campagne électorale, il n'en demeure pas moins que les feux ont eu un impact et vont continuer d'avoir un impact en fonction de l'évolution de ce qui se passe, évolution évidemment toujours imprévue. J'ai mentionné les vents. Ben, les vents et la météo sont fondamentaux pour comprendre justement l'évolution des feux.
Oui, c'est ça, parce que pour les gens qui sont loin de l'Alberta, mercredi soir, il y avait encore 92 feux actifs entre le nord et le centre de l'Alberta, 26 qui sont encore hors de contrôle. Il y a de la fumée qui descend jusque dans le sud, jusqu'à Calgary. Ouais. Il y a un ciel orange un peu partout. On est content d'apprendre qu'Edmonton, c'est un peu moins pire. Et donc, des risques pour la santé des personnes dans les villes. Puis pendant ce temps-là, il y a une élection qui est prévue pour le 29 mai. Ça s'en vient quand même très rapidement. Donc, comment est-ce que la crise actuelle influe sur ce cycle électoral en ce moment?
Au début, l'élection a commencé comme prévu, puis le scénario prévu, ben, c'est l'affrontement entre Daniel Smith et Rachel Notley, donc conservateurs unis contre les néo-démocrates. Je vous dirais que les autres formations politiques sont tout simplement pas dans le décor. Parfois, les libéraux ou le parti albertain, Alberta Party, apparaissent à peine dans les sondages. Sauf qu'après quelques jours de campagne, on s'est aperçu que là, les feux sont venus comme exercice, que moi j'appelle une sorte de force d'inertie. C'est-à-dire qu'on a été obligé de mettre pause sur la campagne pour un moment. Mm-hmm. Et là, on a vu les deux chefs, Rachel Notley et Daniel Smith, venir rencontrer des évacués du côté d'Edmonton. Donc, il y a eu une période de flottement là, qui a duré presque une bonne semaine. Mais là, depuis le début de cette semaine, là, ce qu'on note, c'est que les deux chefs veulent faire campagne comme si les feux n'étaient pas là. On ne peut pas le faire, on ne peut pas nécessairement le faire, mais on veut mener campagne et défendre son programme respectif parce que on est aujourd'hui jeudi. Jeudi, ben, il y a c'est le premier débat. Et donc, on veut se préparer pour le débat et montrer que du côté de Daniel Smith, on est en mesure de gouverner, qu'on n'a pas gagné par accident. Et du côté de Rachel Notley, ben, qu'on est prêt à revenir au gouvernement, qu'on a un programme de gouvernement et qu'on veut le présenter à la population et montrer qu'on est davantage en mesure de gouverner que Daniel Smith, avec toutes ces déclarations controversées. Et ça montre que Daniel Smith est tout simplement incompétente. Et donc, c'est un peu l'affrontement là, auquel on fait face présentement.
Est-ce que c'est perçu comme de bon ton, ça? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont évacués. Il y a des communautés, surtout dans le Nord, beaucoup de communautés autochtones qui sont menacées par les feux. Est-ce que le business as usual, est-ce que ça passe?
Pour le moment, ça semble passer. Mais si la situation se dégrade, si, par exemple, on manque de pompiers, donc des combattants des feux de forêt du côté de l'Alberta, et déjà, on voit, on est obligé de faire appel à des pompiers d'un peu partout au Canada. On parlait même, je pense, de la Nouvelle-Zélande. Donc ça pourrait commencer, justement, montrer là, qu'on ne peut pas faire campagne comme si de rien n'était, et qu'il faut prendre en considération cet aspect-là beaucoup plus sérieusement qu'on le fait, parce qu'il y a comme une espèce de paradoxe. En même temps où on a ces feux, des feux qui témoignent, disons, des changements climatiques, même du côté des néo-démocrates, on fait attention de politiser cette question-là. C'est-à-dire de dire, regardez, il faut avoir des mesures environnementales beaucoup plus fortes. Et on sait que les néo-démocrates sont plus pro-environnement que les conservateurs unis, mais jusqu'à maintenant, on essaie d'éviter ce débat-là. Et les néo-démocrates, d'une certaine façon, se campent plus sur le débat de la santé. Et les conservateurs unis, sécurité publique, économie, et donc on fait comme si ça, c'était un peu derrière tout le monde, ou c'est comme un point aveugle, finalement, dans la campagne. C'est vraiment étrange.
C'est assez particulier, ça. Donc, même les néo-démocrates ne veulent pas amener la question de l'environnement alors que les feux sont en train de brûler comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça serait perçu comme divisif de parler de changement climatique qu'on veut faire comme si les feux de forêt de plus en plus fréquents, c'est pas une question politique, qu'on veut garder ça à l'intérieur de la politique? Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
On fait ça d'abord du côté des néo-démocrates parce qu'en 2019, ça avait été pour les néo-démocrates très difficile de faire campagne parce que les conservateurs unis et Jason Kenney ne cessaient pas de rappeler ou essayaient de montrer que finalement Notley, c'était comme Justin Trudeau et que Rachel Notley, c'était le tandem Notley-Trudeau.
Les Trudeau qui est comme associé à l'environnement puis à la taxe sur le carbone puis tout ça, OK, oui.
Exactement, la taxe carbone et tout ça. Et donc l'idée là, que Justin Trudeau veut, pour me faire une mauvaise traduction, tuer les sables bitumineux, on dit souvent kill là, ici. Par conséquent, du côté des néo-démocrates, on veut mettre cette accusation-là de côté. Donc, on a un programme environnemental, mais on ne le met pas nécessairement de l'avant. Et du côté des conservateurs unis, on a un peu modifié le discours également. C'est-à-dire que maintenant, on est moins climato-sceptique, on reste climato-non-motivé, comme je dirais, mais on parle plus de solutions techniques. C'est-à-dire la capture des gaz à effet de serre dans le sol, on va parler de l'hydrogène, on va parler donc de solutions davantage techniques plutôt que de restreindre la production de l'industrie, de l'énergie, production des sables bitumineux. De toute façon, cette production-là, je vous dirais, c'est pas qu'elle est en train de décroître, mais ce qu'on note depuis un certain temps, c'est qu'il n'y a plus de grands investissements. C'est-à-dire que les investissements qui sont faits pour le moment, c'est surtout des investissements là, pour les opérations existantes, pour assurer le maintien des activités déjà présentes.
Dans notre modèle économique, le maintien, c'est de la décroissance dans un certain sens, là. Dans un monde où hors de la croissance, point de salut.
Oui, et donc je pense qu'il y a cette prise de conscience-là aussi que même du côté des grandes industries, on s'en va vers la carboneutralité, que ça, c'est d'une certaine façon inévitable. Je dirais même, paradoxalement, j'entends davantage parler sur la scène fédérale de la fin de la taxe carbone par Pierre Poilievre que par les conservateurs unis ici. Oui, on la décrit, mais d'une façon comme si c'est une taxe fédéral, ben on laisse les choses aller. Donc, ça fait une campagne électorale qui est différente de celle de 2019. Notamment, on ne parle plus de pipeline non plus. Alors qu'auparavant, les dernières campagnes électorales, que ce soit 2012, 2015 et 2019, il y a toujours cette question-là, bon, d'un nouveau pipeline, le Keystone XL, le Trans Mountain Nord. Là, le Trans Mountain, le gouvernement fédéral en est responsable. Lui, écoute, construction ne cesse d'augmenter, on veut faire des emprunts, mais ce n'est plus dans la campagne électorale provinciale comme telle. C'est assez surprenant, j'entends vraiment pas beaucoup parler de pipeline. Je ne sais pas si lors du débat ça va revenir, mais même du côté des néo-démocrates, on se contente du Trans Mountain, conservateurs unis Trans Mountain, et ça semble aller.
Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que la politique en Alberta, elle est en train de se transformer tranquillement. Mais il y a quand même une transformation sur la place de l'environnement dans le débat. Ça se fait, pour moi qui est à Montréal, ça se fait très différemment de la manière dont ça se fait ici, mais il y a quand même eu un glissement dans un déplacement du centre, surtout si, par exemple, c'est plus de bon ton d'être climato-sceptique. C'était pas le cas jusqu'à récemment, là.
Oui, donc c'est vrai que ça se fait lentement, cependant. C'est pas, on parle pas là, d'un changement brusque et rapide. C'est un peu comme la dérive des continents. Ça se fait, on le voit à un moment donné, mais il faut attendre un certain temps pour que ça se fasse. Et je pense aussi que c'est les conditions internationales également. C'est vrai que quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine, là, on a commencé à parler que l'Alberta pourrait être, et le Canada en général, un pourvoyeur d'énergie pour l'Europe, notamment pour l'Allemagne. Mais étonnamment, ce n'est pas très présent dans la course, dans l'élection provinciale présentement. Donc, je pense que ça témoigne aussi du fait que l'Alberta peut bien être productrice d'énergie, mais les grands paramètres, c'est sur les marchés mondiaux que ça se passe. Et donc, si le prix du pétrole descend, et déjà, je vous dirais que le prix du pétrole est déjà en dessous de ce que les prévisions budgétaires de février dernier prévoyaient, donc dans le budget, donc ça laisse entendre qu'il va peut-être y avoir moins de revenus que prévu. Je pense qu'à un moment donné, l'idée qu'il faut changer minimalement certains paramètres économiques, parce que l'argent des sables bitumineux et du pétrole et de l'industrie gazière est tout simplement plus au rendez-vous. Ne sera pas au rendez-vous nécessairement dans le futur, même s'il peut y avoir de très, très bonnes années. Il y a eu une bonne année, mais les prix baissent et déjà les prévisions du gouvernement peuvent être faussées par quelques mois de baisse de prix.
Donc ça serait comme donc une première transformation dans la politique albertaine. Une autre axe de transformation dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, pour les gens qui sont plus des néophytes en politique albertaine, c'est quand même le Parti conservateur de Daniel Smith n'est pas le Parti conservateur historique qui a dominé la politique là, depuis les années 70 là, en Alberta. Je m'adresse à un politologue, il faut en profiter quand même. Donc, si on peut se décoller un peu le nez de l'arbre puis prendre un peu de recul, comment est-ce qu'on pourrait qualifier les transformations dans les mouvements conservateurs albertains dans les dernières années?
C'est autour de la première décennie des années 2000, lorsque Ralph Klein a pris sa retraite de la politique au milieu des années 2000. Là, on a assisté à l'émergence d'un nouveau courant à l'intérieur du Parti conservateur, c'est-à-dire un courant beaucoup plus à droite et qui s'est d'abord cristallisé dans le Parti Wildrose, ce qui était dirigé notamment par Daniel Smith, qui est maintenant à la tête des conservateurs unis, une sorte d'ironie de l'histoire. Et donc, ce parti-là, moi, était plus à droite. Et donc, les progressistes conservateurs qui dominaient depuis 1971, on a vu donc apparaître une sorte de schisme entre les deux formations politiques. Et ça a d'ailleurs favorisé la victoire des néo-démocrates en 2015. Et c'est pourquoi, quand Jason Kenney est revenu sur la scène politique, l'idée était justement, il fallait réunir la droite, essayer de trouver un moyen de réunir ces deux courants-là, qui parfois s'opposent presque autant entre la droite et la gauche sur certains sujets. On l'a vu lors de la pandémie. Même Jason Kenney, qui passait pour être l'homme fort de la droite, s'est aperçu qu'il était incapable de contrôler cette droite-là, qui à l'intérieur du Parti conservateur était contre les mesures sanitaires, qui aurait voulu pratiquement aucune mesure sanitaire et qu'on continue à faire comme si de rien n'était pendant la pandémie et que la liberté devait primer sur toutes les... la liberté surtout économique devait primer sur toutes les autres valeurs.
Est-ce que ça serait caricatural de dire que, bon, à Edmonton, historiquement, c'est plus progressiste. C'est là, d'ailleurs, que la base du NPD est. Il y a la droite de Calgary, puis il y a la droite rurale albertaine. Est-ce que ça serait caricaturé de dire que la différence entre ces deux droites-là, c'est un clivage urbain-rural aussi entre les élites économiques de Calgary puis l'Alberta rurale?
Derrière toute caricature, il y a toujours un fond de vérité d'une certaine façon. Mais après ça, il faut aller plus loin justement pour dépasser la caricature. Mais c'est vrai. Edmonton, même historiquement, quand c'était dans les années 70, même Edmonton passait pour être plus progressiste. Peter Lougheed, son surnom à ce moment-là, c'était Peter le Rouge. On laisse entendre qu'il était trop à gauche pour des conservateurs. Et donc, effectivement, la base électorale maintenant des néo-démocrates est très bien ancrée sur la scène provinciale, très bien ancrée du côté d'Edmonton. On s'attend à un balayage néo-démocrate et à peu près tous les sondages montrent ça depuis pratiquement la fin de l'élection de 2019. On voit que les néo-démocrates sont forts du côté d'Edmonton. Calgary, c'est beaucoup plus ambigu. C'est la droite économique et donc c'est pas nécessairement la droite sociale ou religieuse. Donc, à Calgary, ça peut aller des fois du côté un peu plus progressiste, un peu plus centriste. Et c'est pourquoi, là, même les sondages indiquent possiblement que les néo-démocrates vont peut-être refaire quelques gains. Est-ce que ça va être suffisant pour revenir au pouvoir? Ça reste encore à voir. Mais il y a beaucoup de circonscriptions du côté de Calgary, notamment une composition ethnoculturelle qui est très diverse, avec beaucoup de communautés. Le nord de Calgary n'est pas comme le sud de Calgary, ce qui fait que ça rend cette ville-là, qui, sur le plan de la droite économique, domine, mais sur le plan des valeurs sociales, pas nécessairement.
C'est quand même la ville qui a élu Naïd Nenshi comme maire durant plusieurs années. Là, c'est pas une figure de proue du conservatisme, Nenshi, là.
Oui, les libéraux provinciaux ont déjà eu quelques succès du côté de Calgary, notamment du côté du centre-ville. Donc, Calgary, il y a ce visage ambigu d'une droite, mais d'une droite qui est beaucoup plus centriste et qui est axée sur l'économique. Alors que du côté des régions, ben là, c'est là où on retrouve probablement la forme de droite la plus pure. Puis encore là, il faudrait probablement faire des distinctions entre la droite du sud et la droite du nord, parce que l'exploitation pétrolière est dans le nord la province, alors que dans le sud, c'est beaucoup plus agricole, c'est des communautés où là, il y a un fonds religieux d'ailleurs aussi beaucoup plus important et qui remonte aux origines même de la province, avec une droite américaine qui est beaucoup plus proche également.
Peut-être en terminant là-dessus, je vois, il y a un article de Press Progress qui est sorti mardi qui parle sur l'organisation, dans ce cas-ci, ce serait la droite ou même l'extrême droite, un groupe qui est en train de, essentiellement, de mobiliser pour avoir des bénévoles qui vont être des scrutateurs dans les bureaux de scrutin, essayer un peu d'avoir sur le terrain quelque chose qui s'apparente peut-être à ce qu'il y avait aux États-Unis là, en termes de contestation des résultats de vote, ou essayer d'avoir une infrastructure qui permet de contester les votes, une infrastructure bénévole, une infrastructure militante. Est-ce que vous voyez, en termes d'organisation politique même, en termes de dans les partis politiques, quelque chose qui s'apparente plus à ce qui se fait au niveau républicain pour essayer de mobiliser les votes d'une manière ou d'une autre, ou même, par exemple, un mouvement peut-être marginal, mais quand même qui pourrait remettre en question les résultats d'un vote, un peu comme ça a été fait au lendemain de la défaite de Donald Trump?
Pour remettre en cause le résultat du vote, je crois pas, mais ce qu'on peut voir, c'est un mouvement justement qui essaie de s'organiser en dehors des cadres militants traditionnels, mais qui veut se doter d'une infrastructure justement institutionnelle pour être capable de ramener justement, eux comme ils le voient, de ramener le conservatisme dans le droit chemin d'une certaine façon, parce qu'ils estiment que sous Jason Kenney et avec d'autres conservateurs, le mouvement conservateur finalement a perdu ses boussoles idéologiques. Il a perdu ses boussoles idéologiques parce qu'il veut imiter les libéraux d'une certaine façon, imiter notamment avec toutes les mesures sanitaires pendant que a dû prendre malgré tout Jason Kenney lorsqu'il était au gouvernement. Donc, il voulait imiter les autres gouvernements et que par conséquent, on avait perdu le nord sur le plan idéologique. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir ces mouvements-là pour essayer là, de reprendre, eux, ils voient ça comme ça, de reprendre le contrôle du Parti conservateur pour qu'il redevienne sur le plan idéologique beaucoup plus pur. Et c'est là que ça crée des tensions, même à l'intérieur du Parti conservateur, parce que on le vit avec Daniel Smith. Fait une campagne très à droite pour sa course à la direction. Et depuis qu'elle est en élection, elle essaie de diluer son message. Elle essaie de montrer qu'elle est apte à gouverner, qu'elle est plus centriste qu'on pourrait le penser. Elle reste à droite.
Mais son adversaire, c'est le NPD, c'est un peu,
ouais.
Ça peut expliquer certaines choses.
Oui, ça explique certaines choses, mais ça explique aussi que l'électorat albertain, en général, est peut-être plus à droite, mais il n'est pas aussi à droite que le positionnement politique de Daniel Smith lors de la course à la direction. Parce que sinon, elle n'aurait pas changé son discours, et là, maintenant, elle le change. Elle essaie d'être plus centriste.
Je comprends. Pour les gens qui ne sont pas en Alberta, s'ils avaient une chose à retenir d'une campagne sous fond de feu de forêt, ça serait quoi?
Je dirais que maintenant, l'Alberta est rendu un système politique où on s'affronte à deux adversaires, strictement. Je pense que ça, c'est complètement particulier. C'est complètement différent de ce qu'on retrouve maintenant au Québec, où vous avez un parti politique qui est plus dominant avec plusieurs partis d'opposition. Et donc, c'est une sorte d'évolution politique là, qui est complètement différente, alors qu'auparavant, au Québec, ben, il y avait le Parti libéral puis le Parti québécois. Et là, maintenant, c'est les néo-démocrates à gauche contre la droite, le Parti conservateur uni, et ce qui est une nouveauté dans l'histoire politique albertaine, parce qu'auparavant, on avait justement un parti politique qui dominait, et là, maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que même si les néo-démocrates ne reviennent pas au pouvoir, ils sont très bien installés maintenant, ils ont du financement, une base électorale, des partisans, donc on ne peut pas les compter comme une force politique maintenant qu'on pourrait écarter.
Autant que le Québec est souvent une province très, très caricaturée, à l'extérieur du Québec, dans le reste du pays, je fais de mon mieux sur le réseau de Canada Land pour essayer de nuancer les perceptions des gens. J'espère que cette entrevue-là a permis aussi aux gens qui font exactement la même chose avec l'Alberta, parce que c'est un peu... Québec et l'Alberta sont un peu des miroirs, dans bien des cas,
oui.
De provinces incomprises, de faire aussi de la nuance, puis au moins de savoir de quoi ils parlent. Et bien sûr, j'espère que les gens qui nous écoutent, qui sont en Alberta, ont trouvé que c'est un portrait juste de la situation. Merci beaucoup pour ça, Frédéric Boily.
C'est moi qui vous remercie.
Donc, Frédéric, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci?
Moi, ce que je veux qu'on garde en tête, c'est un article de Paul Journet dans la presse. Et pourtant, il ne compte pas. Je pense que c'est un article qui est important parce que ça parle de la fameuse question des seuils d'immigration.
C'est la semaine passée, là. Donc, on parle du 10 mai, si j'ai bien compris. Donc, la semaine où tout le monde parlait d'immigration au Québec, on s'est fait une autre... on s'est farci une autre semaine où tout le monde parlait d'immigration.
Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'est un débat qui est fondamental. La question des seuils, et c'est une question qui est hautement inflammable sur le plan idéologique, parce que ça donne lieu à des débats et des dialogues de sourds. On s'entend pas sur ce que c'est que les seuils. On n'a pas nécessairement de guide. Et pourtant, la question se pose à quel point une société peut accueillir des immigrants. Et donc, je pense que c'est une question qui mérite d'être débattu, mais qui mérite d'être débattu sereinement. Et là, dans son article, Paul Journet mentionne bon le combien, le qui et le comment. Ça, c'est vraiment important. Et moi, je voudrais ajouter une autre dimension à ça, le où. C'est-à-dire que le Canada, c'est vaste. Toutes les provinces sont vastes. Et donc, le fait d'accueillir des immigrants dans une région ou dans une autre, ben, ça a un impact également, et pas simplement en termes d'impact, en termes de structure d'accueil. On le voit, nous, ici, pour la communauté francophone en Alberta. On parle d'hausser des seuils d'immigration francophone.
Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on le fait?
On en parle plus qu'on le fait. Parce que ça vient juste d'arriver pour le gouvernement fédéral qui vient d'atteindre sa cible d'un peu plus de 4% d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec, donc dans la francophonie canadienne. Et on veut augmenter ce seuil-là. Et c'est demandé par les associations francophones un peu partout au pays, parce qu'on a besoin de l'immigration francophone pour assurer la vitalité des communautés francophones sur le territoire canadien. Mais en même temps, ça peut pas se faire par un coup de baguette magique, ça peut pas se faire simplement par une augmentation. Oui, il faut une augmentation, mais il faut en même temps aussi des structures d'accueil pour s'assurer que, notamment dans le cas des communautés francophones, les immigrants francophones qui vont venir, par exemple, dans des provinces comme l'Alberta ou la Saskatchewan, trouvent des écoles, trouvent de l'emploi. Mmh. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'intégrer à la société en général, et la société générale, ça se passe en anglais. Donc, c'est pourquoi c'est important. C'est pas juste une question de seuil, c'est pas juste une question de nom. C'est une question d'intégration, c'est une question de faire en sorte que cette immigration-là francophone contribue à la vitalité. Et ça, c'est une question de fond. C'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant cet article de Paul Journet, qui touche pour le Québec, mais qui vaut pour l'ensemble du Canada et pour l'ensemble des communautés.
Oui, c'est une question de ressources. Et pour les gens qui sont peut-être moins courants des dossiers en immigration francophone, donc il y avait, je pense, au début des années 2000, 4,4% de francophones à l'extérieur du Québec. Puis on s'est dit, ben ça prend 4,4% d'immigration pour garder le poids des francophones dans le Canada. 20 ans plus tard, cette cible-là n'a pas été atteinte, à part peut-être cette année.
Seulement cette année, oui.
Ce qui fait que, visiblement, le poids des francophones a diminué. Là, ce que les assessorons disent, c'est qu'il faut avoir une cible bien plus ambitieuse que 4,4 si on veut retourner au poids démographique qu'il y avait au début des années 2000. Et pendant ce temps-là, bien, on perd d'augmenter le rythme de l'immigration au Canada. Donc, les francophones essaient de tirer son épingle du jeu là-dedans. Puis la question des ressources et des services dont tu viens de parler. Donc, je pense que c'est vraiment important. Quand je disais, on s'est fait une espèce de grande panique au Québec là-dessus, suite à une journal de Montréal qui parlait essentiellement de noyade démographique du Québec dans le Canada. Là, je pense que c'est important de sortir peut-être des fois de nos affects québécois là-dessus et de regarder ce qui se passe ailleurs dans le pays.
Exact.
Bien noté. Bien noté, Frédéric.
Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu gardes en tête ce mois-ci?
Plein de choses, mais vu que j'ai un politologue franco-albertain au bout de la ligne, quand même, il faut le souligner, je me suis dit que ce que j'avais envie de parler, c'était l'adoption, enfin, parce que ça a été long comme processus, l'adoption de la loi C-13 sur les langues officielles qui s'est finalement fait cette semaine. Puis on avait beaucoup parlé de ce projet de loi-là parce qu'il y avait une partie du caucus, par exemple, libéral anglophone de Montréal ou qui représente les comtés plus anglophones de Montréal qui s'inquiétaient de l'impact du projet de loi sur la minorité anglophone au Québec. Et finalement, il y a seulement un de ces députés-là, Anthony House-Value, qui a voté contre. Donc, il semble avoir un ralliement au sein du caucus fédéral. Puis c'est vraiment intéressant qu'il y ait eu cette idée-là de... Je ne veux pas dire de bilinguisme asymétrique, mais on introduit quand même cette idée-là avec les nouvelles politiques du gouvernement qu'en fait, il y a deux langues officielles, mais seulement une. Mais la langue française est une langue fragile, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, j'avais envie de te demander, Frédéric, qu'est-ce que ça veut dire, cette loi-là, pour toi, qui est prof au campus Saint-Jean, qui est quand même pas beaucoup d'universités ou de campus francophones, comme ça, en Alberta, ou dans le reste du Canada en général. Donc, de ta perspective à toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette loi-là? Qu'est-ce que ça va changer?
Je dirais d'abord, enfin, parce que ça a beaucoup, beaucoup traîné. Les associations francophones un peu partout au pays, du côté de l'Ouest canadien, attendaient depuis longtemps cette modernisation de la loi sur les langues officielles. Il reste encore, évidemment, à voir comment ça va changer les choses concrètement, mais déjà, le fait que la loi ait un peu plus de mordant, qu'il y ait des possibilités pour les institutions, notamment post-secondaires, peut-être d'avoir une place à l'intérieur des dispositifs qui vont être mis en place par la loi, ça peut être une avenue fort intéressante, où toute la question maintenant qui reste encore aussi à voir, ce que les zones francophones justement là, qu'on veut identifier hors Québec, je ne sais pas si ça va toucher l'Alberta, parce que ça va dépendre des critères qui vont être implémentés, mais en même temps, ou qui vont servir à identifier ces zones-là. Donc, il reste encore pas mal de questions, mais il en demeure pas moins qu'on attendait une modernisation, parce qu'elle était absolument nécessaire. Bien noté, Émilie.
Frédéric, on en a parlé déjà plusieurs fois à l'émission avec d'autres invités. Il y a, disons, des transformations depuis quelques années dans les médias francophones au Canada, et j'ai envie de dire au Québec de manière plus spécifique, où il y a de plus en plus de coordination, je pense que c'est le mot que je vais employer. Il y a une coordination de plus en plus grande entre certains chroniqueurs politiques et le côté politique, tant au niveau de la CAQ que du Parti québécois, il y a des amitiés, il y a des réseaux, il y a une constellation qui se cache de moins en moins de ses affinités. Ce que ça donne, c'est que finalement, entre la Une, Journal de Montréal, puis des fois les réactions de la CAQ, on se demande si l'un n'est pas un peu le relais de l'autre. La même chose au niveau du Parti québécois. Je caricature, bien sûr, là, mais il y a eu des exemples dans les dernières semaines, notamment dont je parlais de la question de l'immigration la semaine passée, où c'est assez flagrant. Puis ça adonne comme ça par hasard qu'à l'automne dernier, tu as publié bien sûr plusieurs livres, tu t'intéresses de manière générale au conservatisme comme politologue, mais tu as publié à l'automne dernier un livre qui s'appelle « Génération MBC, Mathieu Bock-Côté et les nouveaux intellectuels conservateurs ». Et j'avais envie d'abord de te demander pourquoi la pertinence ou le timeliness ou le momentum pour lancer ce livre-là maintenant. Qu'est-ce qui t'a inspiré en voyant peut-être ce contexte-là médiatique à écrire un essai sur cette question-là?
Oui, effectivement, c'est une bonne question, Émilie. D'abord, c'était un moyen pour moi de faire le lien avec mes travaux antérieurs, notamment sur le conservatisme au Québec. Mais en même temps, ça, disons, c'est le contexte plus général qui m'est, disons, plus personnel sur le plan des recherches. Mais ça correspond effectivement à un contexte médiatique qui a changé, un contexte intellectuel et idéologique qui a changé, je dirais, depuis la crise des accommodements raisonnables. Je pense que si on avait un moment là, vraiment à mettre, là, donc, à identifier, je pense que c'est autour de cette crise des accommodements raisonnables là, où on a commencé à voir un mouvement conservateur se former de manière plus forte, portes, et notamment autour de la figure médiatique de Mathieu Bock-Côté, qui, quoi qu'on en pense, est effectivement rendu un intellectuel majeur au Québec et même en France maintenant, mais aussi d'autres intellectuels. Parce que si ça avait été juste Mathieu Bock-Côté, j'aurais pas écrit l'ouvrage. Mais il en demeure pas moins que Mathieu Bock-Côté est la figure centrale, mais il y a d'autres intellectuels aussi qui développent à leur façon aussi, et pas toujours nécessairement de manière coordonnée, cette idée là, que le conservatisme et la droite doivent remonter la tête après. Et je dis remonter la tête parce qu'elle avait eu, depuis les années 70, elle n'était pas très voyante, elle était plutôt dans le placard d'une certaine façon, parce que c'était l'affrontement souverainiste et fédéraliste. Or, dans le contexte de l'après-1995, la crise des accommodements raisonnables, le fait que la CAQ maintenant aussi a monté, ben il y a comme une est maintenant rendu au pouvoir pour un deuxième mandat, ça a créé, je pense, une sorte de nouvelle ambiance intellectuelle. Et Mathieu Bock-Côté a contribué à la forger, cette ambiance intellectuelle et politique, en développant un conservatisme beaucoup plus affirmatif que par le passé, en développant des idées notamment contre le multiculturalisme, en se réclamant du libéralisme, mais en n'étant pas, à mon avis, nécessairement vraiment un libéral au sens classique du terme, ben ça fait en sorte qu'il y a comme une conjonction des as qui fait que on a maintenant un parti comme la Coalition Avenir Québec qui baigne aussi dans ce nationalisme conservateur.
On parle d'intellectuels conservateurs, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les auteurs qui sont nommés ou qui sont cités le plus dans le livre, puis même Mathieu Bock-Côté lui-même, bon, il a été chargé court, mais c'est un chroniqueur, donc il y a une émission en France, donc on parle plus de personnalités médiatiques que de professeurs d'université à temps plein, disons, pour la plupart des gens nommés. Donc, c'est dans le fond, c'est des gens qui ont des bonnes formations universitaires, mais qui sont plus dans la sphère publique, qui ont émergé après 95. Commençons par ça. Pourquoi après 95, quand on dit la crise des accommodements raisonnables au début des années 2000, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'il y a eu ce tournant-là, disons, idéologique ou dans les idées que la droite identitaire, on dit souvent ça comme ça, a monté au Québec à partir des années 2000?
Essentiellement, c'est parce que l'échec du référendum, l'échec du point de vue souverainiste, évidemment, là, fait en sorte que l'idée qu'on va tenir un troisième référendum, qui était présente dans l'espace politique et médiatique tout juste après le référendum, mais très rapidement, ça s'est estompé. Les conditions gagnantes n'étaient plus là. Et on l'a vu notamment avec Lucien Bouchard lorsqu'il dirigeait le Parti québécois. Et à un moment donné, le Parti québécois a pris lui aussi une nouvelle orientation, c'est-à-dire que une nouvelle orientation qui a été très, très, très décriée par Mathieu Bock-Côté et à peu près tous les intellectuels que je cite dans l'ouvrage, à savoir une orientation qui aurait rapproché l'ensemble du mouvement souverainiste, y compris le Bloc québécois, du multiculturalisme à la canadienne.
Pour les gens qui ne connaissent pas, donc Mathieu Bock-Côté, à la base, à cette époque-là, on parle de la fin des années 90, était un militant dans les jeunesses du Bloc québécois qui a mis de l'avant des idées qui étaient jugées trop proches de l'extrême droite et qui s'est fait essentiellement montrer plus ou moins la porte là, de la jeunesse du Bloc québécois à cette époque-là, pour maintenant revenir en force quelques années plus tard et devenir un des intellectuels les plus cités par le mouvement souverainiste, mouvement nationaliste au Québec. Donc, c'est assez intéressant pour les gens qui ne connaissent pas de comprendre l'origine aussi du personnage dont il est question.
Oui, parce que c'est ça qui est particulier. Si on veut trouver une critique du mouvement souverainiste des années 2000 qui soit la plus virulente, on ne la trouve pas du côté des fédéralistes d'une certaine façon, on la trouve du côté justement d'intellectuels comme Mathieu Bock-Côté qui reviennent continuellement sur la mauvaise orientation prise par les souverainistes québécois, notamment avec l'épisode d'André Boisclair. C'est seulement par la suite que les intellectuels comme Mathieu Bock-Côté revoient sous un jour plus favorable le mouvement souverainiste, seulement lorsqu'il va y avoir une tentation identitaire plus forte, notamment sous Pauline Marois.
Oui, c'est ça. C'est après le départ d'André Boisclair, donc à la chefferie du Parti québécois, qu'il y a eu un virage vraiment, là.
Donc, c'est pour ça, c'est dans la fin, d'une certaine façon, là, du rêve d'un troisième référendum que tous ces débats-là refont surface et que là, la question de l'identité, d'une certaine façon, est venue remplacer la question du référendum. Ce qu'il faut faire, c'est assurer la survie de l'identité québécoise, mais entendu dans un sens conservateur. Et donc, c'est pourquoi tous les débats sur l'histoire québécoise ont pris tant de place au tournant des années 2000. C'est pourquoi, notamment, par exemple, Mathieu Bock-Côté va s'opposer de manière très forte à Gérard Bouchard ou à d'autres intellectuels comme Jocelyn Étourneau, qui parlent d'une identité nationale qu'il faudrait revoir pour plutôt mettre l'accent sur les historiens ou sociologues qui mettent l'accent, eux, sur la pérennité de cette identité québécoise, une identité québécoise qui remonte même avant 1960. C'est pourquoi les débats autour de l'histoire québécoise ont été aussi importants.
L'identité canadienne-française, dans le fond, là.
Oui, oui. Et la question, par exemple, de l'héritage de Maurice Duplessis aussi, était une question qui était importante pour eux, parce que comment resituer Maurice Duplessis dans l'histoire longue du Québec? Et évidemment, par la suite, est arrivé le débat sur la laïcité, qui lui aussi est venu d'une certaine façon. Et la manière un peu paradoxale, c'est que l'histoire de la laïcité maintenant est vue comme étant réintégrée dans l'histoire longue du Québec. Ou en tout cas, il faut essayer de trouver un moyen de la réintégrer dans l'histoire longue du Québec, ce qui est problématique d'un point de vue conservateur, parce que, bon, la laïcité, on ne peut pas trop la trouver du côté de Maurice Duplessis, par exemple.
Certainement pas de Lionel Groulx non plus. On patente quelque chose, mettons.
Oui, exactement.
On essaie de patenter quelque chose.
Oui, pour des conservateurs, je dirais que ça, c'était un problème. Mais on a trouvé, disons, le moyen de réintégrer tout ça, notamment par la critique du multiculturalisme. Pourquoi? Parce que là, maintenant, le Québec est vu comme étant un bastion à l'intérieur de l'Amérique du Nord qui résiste au vent du multiculturalisme qui souffre très fort du côté du Canada anglais ou qui viennent aussi d'une certaine gauche aux États-Unis. Et donc, par conséquent, ce discours-là de Mathieu Bock-Côté et d'autres, comme quoi le Québec est un bastion qui résiste au multiculturalisme, qui est décrit comme une religion politique, qui est décrit comme un nouveau totalitarisme avec le politiquement correct, ben c'est un discours qui, auprès d'une certaine droite en France également, touchait une corde sensible. Et donc, je pense que ça explique aussi pourquoi maintenant Mathieu Bock-Côté est une vedette médiatique du côté de la France, parce que, ben là, c'est plus la question de savoir, du côté français, la question, c'est plus de savoir si le Québec va devenir souverain ou pas, c'est plutôt si le Québec va être libre du multiculturalisme ou pas. Et ça plaît parce que, du côté de la droite française, beaucoup d'intellectuels aussi veulent résister à ce qu'on voit comme les vents dominants du wokisme.
Carrément. Et donc, c'est le paradoxe. C'est un peu, autant ces intellectuels-là sont des souverainistes, autant dans le cas de Mathieu, c'est le fait d'être Canadien qui l'a aidé à être une vedette en France, parce que c'est comme si en étant dans un sens, là, ouais. Parce que c'est le fait d'être Canadien qui l'a amené à se positionner comme expert de la question du multiculturalisme et à se positionner là-bas comme la personne qui vient avertir les Français des grandes plaies du multiculturalisme qui les menace à moins qu'ils restent vigilants. Donc, ça, dans un sens, c'est venir d'Amérique du Nord, le permis de, peut-être on pourrait dire ça comme ça, de se positionner en France et de répondre à, je ne veux pas dire un besoin, mais disons à une pulsion qu'il y avait dans le débat public français.
Exactement. Il répondait à une demande, je pense. Il y avait une demande, oui, dans l'espace public français, notamment du côté de la droite, très forte pour critiquer justement là, ce multiculturalisme qui vient notamment des États-Unis ou en tout cas de côté de la France, on le voit. Et ça remonte même aux années 90. Mm-hmm. Et donc, Mathieu Bock-Côté arrive 20 ans plus tard avec une critique qui, comme tu l'as mentionné, là, vient montrer là, justement comment le Québec peut résister à ça. Mais un Québec nationaliste, un Québec nationaliste sur le plan identitaire qui n'oublie pas son passé. Et comme aussi Mathieu Bock-Côté connaît très bien l'histoire française, ça, il faut lui accorder ça, il connaît très bien les auteurs français, c'était donc la rencontre parfaite d'une certaine façon entre Mathieu Bock-Côté et une certaine demande de l'intelligentsia française plus à droite.
Merci pour cette mise en contexte-là. Peut-être une dernière question en terminant. comme observateur là, depuis longtemps à l'extérieur du Québec, quand on regarde l'impact que ça a, parce que c'est pas, encore une fois, on n'est pas en train de personnaliser autour d'une personne. Il y a une figure qui émerge peut-être plus fortement que les autres, mais il y a toute une constellation d'auteurs autour de ça qui sont cités dans le livre, d'autres chroniqueurs au Journal de Montréal, certains collègues que j'ai aussi au Devoir, un peu partout. Donc, on voit de plus en plus de voix conservatrices qui prennent la parole dans les médias québécois. Quel est l'impact que tu vois sur le débat public au Québec de manière générale?
Oui, c'est une excellente question parce que c'est toujours difficile d'évaluer l'impact des chroniqueurs, des intellectuels. Est-ce qu'ils ont un impact? Première question. Moi, je pense qu'ils ont un impact, mais c'est souvent un impact indirect et je pense qu'on le voit du côté de la coalition Avenir Québec. C'est-à-dire, la coalition Avenir Québec a développé un discours nationaliste et un discours nationaliste plus conservateur, mais pour développer ce discours-là, il fallait qu'il y ait déjà une sorte d'infrastructure intellectuelle où les idées étaient disséminer. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu ça, le discours de la CAQ serait tout simplement resté le discours de la CAQ de 2012. Un discours simplement économique. Mm-hmm. Un discours plus proche de celui de l'ADQ du passé. Et la CAQ a vu qu'il y avait quand même ce potentiel-là pour un nationalisme un peu plus conservateur, une défense de l'identité québécoise. Et donc, il y a eu une rencontre, d'une certaine façon, entre un discours politique et un discours intellectuel qui est disséminé via plusieurs canaux médiatiques. Donc, c'est pas simplement confidentiel dans une petite revue avec quelques centaines d'abonnés. C'est dans des grands journaux. Et évidemment, aujourd'hui, il y a toute la question des médias sociaux qui vient compliquer la tâche de retracer l'influence. Mais cette influence-là se fait sentir via divers types de publications, je dirais.
Non, c'est sûr. Puis pour que les gens comprennent, on parle d'une clique, là, vraiment, où il y a des jeunes qui deviennent des protégés de certains chroniqueurs très bien en vue chez Québécois, des gens qui s'invitent à souper, Pierre Carperlado qui est toujours très proche de ça, des gens qui parlent toujours au conseil politique de la CAQ ou du Parti québécois, c'est des réseaux qui sont très forts. Donc, je sais pas, peut-être que je vais lancer cette hypothèse-là, l'impact d'un chroniqueur, c'est l'impact sur la politique, c'est l'impact que la politique veut bien donner aux chroniqueurs aussi, là. Donc,
oui, effectivement.
Si en lisant le texte d'un chroniqueur, le gouvernement décide de réagir et d'en faire le thème de son point de presse du jour, alors le chroniqueur a pris du pouvoir, donc c'est un peu de la prophétie autoréalisante. C'est tout pour Détour cette semaine. Merci beaucoup, Frédéric.
C'est moi qui te remercie, Émilie, pour cette très gentille invitation.
Ça fait grand plaisir. S'il vous plaît, à tous ceux et celles qui nous écoutent, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Et j'ajoute que ça fait maintenant un an que Détour existe. Donc, on célèbre notre premier anniversaire et on a de très bonnes nouvelles pour vous à cette occasion-là. Donc, à partir du 10 juin, Détour va être diffusé à chaque 2 semaines plutôt qu'une fois par mois. Et pour lancer la nouvelle saison, on a un événement live le 8 juin au Centre Phi à Montréal. Vous pouvez aller chercher les détails dans la description de l'épisode, mais je vous avertis, il faut acheter les billets vite parce qu'il en reste déjà très, très peu. Et si vous avez un abonnement à Canada Land, vous avez déjà accès à des billets gratuits. Il faut simplement aller les réserver. Donc, on a bien hâte de vous entendre plus souvent à chaque 2 semaines à partir du mois de juin. D'ici là, vous pouvez me trouver sur Twitter et à Canada Land. Vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Frédéric, si les gens veulent te rejoindre, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Ils peuvent me trouver sur mon courriel de l'Université de l'Alberta. Je suis pas très réseau. Je suis pas très présent sur les réseaux sociaux.
Mais tu es très googlable. Donc, Frédéric ouais. Wally, hein, googlez ça, vous allez tout de suite trouver et vous allez notamment trouver son dernier livre, Génération MBC, Mathieu Bocoté, Les nouveaux intellectuels conservateurs, publié aux presses de l'Université Laval. Vous pouvez aussi écouter tous les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous tout de suite. Cet épisode est produit par Tristan Capacchione. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, il faut toujours le redire, partagez-le, s'il vous plaît, sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. We'll be right back.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.